écoutez Armada.
Armada. Armada.
Alain Desmarais.
Christine Hernandez.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Pour cette émission régulière consacrée au peuple palestinien, à la solidarité au peuple palestinien. Et donc, bonsoir Christine.
Bonsoir Alain.
Et ce soir, eh bien, nous allons parler d'une affaire ayant trait à l'actualité, parce que on est toujours un petit peu dans l'actualité avec la Palestine.
Toujours, toujours, malheureusement.
Mais à l'actualité, concernant la Palestine, mais une actualité plutôt française.
Voilà, qui relie la France voilà. Et le débat en France sur l'antisionisme et l'antisémitisme.
Voilà, tout à fait. Après, entre autres, l'agression dont a été victime Finkielkraut.
Oui.
On a eu tout un débat en France et du coup, on a glissé doucement, mais sûrement, vers une défense inconditionnelle de l'attitude d'Israël et du sionisme. Et donc ce soir...
On peut se poser la question.
Voilà. Alors ce soir, on va essayer d'y voir plus clair sur cette question.
Bien sûr.
Et on va essayer, on va le faire avec Pierre Stamboul, qu'on
Pierre
aura
Stamboul.
Tout à l'heure en direct, au téléphone, qui nous expliquera que critiquer Israël, critiquer le sionisme, être antisioniste...
N'est pas antisémite.
Voilà. Hein. Et il y a un amalgame extrêmement dangereux et une criminalisation de l'action contre Israël qui est extrêmement dangereuse. Mais d'abord, on va commencer peut-être par quelques informations, comme d'habitude.
Alors, comme d'habitude, Gaza. La commission d'enquête interdépendante désignée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient de rendre la version résumée de son rapport sur les manifestations dans le territoire palestinien occupé. Centré sur les grandes marches du retour entre le 30 mars et le 31 décembre 2018, ce rapport insiste d'abord sur le caractère essentiellement politique et pacifique de ces manifestations et répertorie une seule opération d'armée palestinienne d'un tireur isolé qui a entraîné un déluge d'obus de l'armée israélienne et 21 morts côté palestinien. Parmi les 183 tués et 6106 blessés par des tirs directs de l'armée israélienne, dont de nombreux enfants, il faut le dire, des femmes, des personnes handicapées, des journalistes et des personnels de santé, bien sûr tout le monde non armé, des enquêtes détaillées ont montré qu'une grande majorité ont été atteintes alors qu'elles se trouvaient entre 50 et 300 mètres de la clôture de séparation, victimes de tirs réguliers et méthodiques des snipers de l'armée israélienne avec une volonté de tuer et de blesser. Le rapport conclut à une forte probabilité de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Rappelons que la mise en place d'une commission d'enquête indépendante avait été demandée aussi bien par l'Union européenne que par de nombreux États membres, dont la France.
La députée, une bonne nouvelle. La députée palestinienne Khalida Jarrah est enfin sortie des prisons israéliennes. Libérée en juin 2016 après avoir passé plus d'un an dans les prisons israéliennes, elle avait de nouveau été enlevée chez elle dans la nuit du 7 juillet par l'armée israélienne. Depuis, elle était maintenue en prison par un système judiciaire dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui viole le droit international, en ayant recours massivement à la détention administrative pour les prisonniers politiques palestiniens. Comme l'avait été Salah Hamouri, notre compatriote, Khalida Jarrah, a été victime de cette détention arbitraire pendant 20 mois, détention renouvelable de 6 mois en 6 mois, sans qu'aucune charge ne lui soit notifiée. Enfin, Khalida est libre. Elle a pu retrouver les siens et va pouvoir reprendre ses activités de défense des prisonniers politiques palestiniens et de dénonciation des crimes d'Israël. C'est bien cela qu'Israël ne supporte pas. Le peuple palestinien est debout et résiste à l'occupation. Rappelons qu'il reste 5450 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 490 condamnés à plus de 20 ans et 540 à vie, sans compter les centaines de détenus en attente de jugement.
Et donc pour les prisonniers aussi, 350 enfants prisonniers. Encore une actualité. Sous la coupe de l'administration israélienne, des hameaux isolés de Cisjordanie occupée ont assisté impuissants à la destruction de canalisations d'eau vitales pour leur quotidien et financées par la communauté internationale. Le 13 février, les villageois ne purent rien faire pour s'opposer aux camions et aux bulldozers escortés par l'armée israélienne qui sont venus exécuter une décision bureaucratique sans prévenir. Ils ont coupé les canalisations, arraché des centaines de mètres de tuyaux qui approvisionnaient les 12 hameaux depuis septembre 2018. La justification était classique, structure illégale, pas de permis préalable accordé. Forcément, le gouvernement israélien a classé ces collines comme zone de tir 918, soit zone à usage militaire.
Rappelons qu'on est en Cisjordanie. Ils sont passés chez eux, les soldats israéliens.
Rappelons que nous sommes en Cisjordanie occupée. Il est difficile d'imaginer, en effet, ce qu'ont représenté pour eux l'installation des canalisations pour les Palestiniens et la réhabilitation des réservoirs d'eau grâce à 300 000 dollars de fonds onusiens et l'implication de l'ONG Action contre la faim. Jusqu'alors, l'eau non potable retenue dans les vieilles citernes était sale et sentait la rouille. Elle favorisait les maladies chez les enfants. En raison des chutes d'eau insuffisantes, il n'était pas possible d'en utiliser pour nettoyer les réservoirs au préalable. Surtout, ne pas gâcher. L'eau manquait cruellement, au point que les éleveurs devaient emprunter des camions citernes, les conduire sur les routes presque impraticables et ramener des mètres d'eau. On était en déficit d'eau chaque année, explique Nida Younes, 42 ans, chef du conseil des 12 villages palestiniens. Un mètre cube coûte plus de 40 shekels, c'est-à-dire près de 10 euros, plus même pendant l'été. La canalisation devait servir à faire tomber ce prix à environ, tomber fortement le prix, de telle sorte que ça puisse être beaucoup plus abordable. Mais une politique illégale et inhumaine, a estimé le quotidien Haaretz. C'est un quotidien israélien, mais de gauche, dans son éditorial du 24 février. La 5e convention de Genève énumère les devoirs qui incombent à toute puissance occupante, et notamment l'obligation d'assurer l'approvisionnement, la santé et l'hygiène publique. Mais le droit, encore une fois, mais le droit humanitaire semble n'intéresser que les experts de nos jours. L'affaire a suscité l'indifférence générale en Israël et l'indifférence générale dans le monde. Ces échos de Cisjordanie, d'une banalité totale, viennent d'une autre planète, dont on ignore volontiers les règles quotidiennes.
Alors, ce soir, donc, nous allons aborder notre sujet principal. Puisque ça a soulevé une polémique en France et de graves inquiétudes du côté des amis de la Palestine, puisqu'on est en train de les criminaliser.
C'est ça.
Le président de la République a en effet déclaré, à l'occasion du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv en 2017, « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, la nouvelle forme de l'antisémitisme ». Il récidive en février de cette année, lors du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et annonce son intention de faire adopter par la France la définition de l'antisémitisme qui inclut l'antisionisme. Cette position est défendue par l'IRHA, c'est-à-dire l'International Holocaust Remembrance Alliance, l'organisme intergouvernemental chargé de promouvoir la mémoire de l'Holocauste. Il faut dire que cette définition est très contestée. Dans la foulée, un député de La République En Marche a annoncé sa volonté de déposer une proposition de loi allant dans ce sens. Cette offensive est habilement orchestrée. Il s'agit d'une manipulation pour interdire toute critique contre la politique coloniale d'Israël, notamment en Europe. C'est une offensive contre le mouvement de solidarité envers la Palestine. Cette thèse est insupportable car elle cherche à masquer délibérément les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël, dont ceux dont on vient de parler à Gaza. Sa politique d'apartheid et de nettoyage ethnique. Tout acte antisémite est condamnable, bien évidemment. Toutefois, comme pour Dominique Vidal, historien, ancien journaliste au Monde diplomatique, l'amalgame antisémitisme et antisionisme constitue un contresens historique et une faute politique. Contresens historique car la plupart des Juifs ont été et restent antisionistes, en tout cas non-sionistes. Sont-ils pour autant antisémites ? Une faute politique car on en revient au délit d'opinion qui n'existe plus depuis la guerre d'Algérie. Pourtant, si on arrive à caractériser l'antisémitisme, on ignore souvent ce qu'est l'antisionisme et donc ce qu'est le sionisme.
Le sionisme, la caractéristique du sionisme est de s'inscrire dans une logique coloniale de conquête et de peuplement par la dépossession des Palestiniens. Dès le départ, à la fin du XIXe siècle, le sionisme affirme que l'antisémitisme est inévitable et qu'il n'est pas utile de le combattre et que la seule solution est de créer un État juif. Le sionisme est une théorie de la séparation qui plaisait beaucoup aux dirigeants antisémites au début du XXe siècle. Il n'a jamais pensé la cohabitation. Le mensonge historique « une terre sans peuple pour un peuple sans terre » vise à chasser les Palestiniens de leur terre avec l'idée qu'ils ne sont pas chez eux. Vaste mystification de l'exil et du retour. En 1948, la Nakba, la catastrophe en arabe, est le crime fondateur du sionisme. La création d'Israël s'est traduite par l'expulsion préméditée depuis la naissance du sionisme de 800 000 Palestiniens, de centaines de villages détruits. Le nettoyage ethnique aujourd'hui est toujours à l'œuvre. Lors des débats qui ont agité dernièrement la France, tu en parlais Alain, l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, s'est exprimée. Nous sommes juifs et nous sommes antisionistes. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pierre Stamboul, coprésident de l'UJFP, auteur de plusieurs écrits et ouvrages, dont le dernier s'intitule « La Nakba ne sera jamais légitime ». Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour.
Alors Pierre, tu as écrit une lettre au président de la République, tu lui as répondu et tu lui dis « l'antisionisme est l'une des formes modernes de l'antisémitisme, c'est lumineux ». Comment n'avais-je pas compris plus tôt ? Merci, Monsieur Macron, j'abjure. Alors Pierre, pour éclairer le débat, est-il possible aujourd'hui de critiquer Israël sans être traité d'antisémite ? Mais avant de répondre à cette question, peux-tu nous expliquer qu'est-ce être juif ? Qu'est-ce que l'idéologie sioniste ?
Là, tu poses une question très vaste. Qu'est-ce qu'être juif quand l'UJFP a écrit Une parole juive contre le racisme, qui est un ouvrage collectif de notre association? On n'a pas donné une définition au mot juif, on en a donné 10. Il y a dedans la définition religieuse, on est juif par sa mère. Il y a la définition nazie, on est juif parce que c'est une race inférieure. Et puis il y a eu plein de définitions qui étaient plutôt de la part des membres de l'UJFP, chacun disant en quoi à un moment donné... Je me suis senti juif. Moi, je peux toujours donner ma définition. Je ne pense pas qu'il y ait un peuple juif, parce que nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. Ces descendants seraient plutôt les Palestiniens. Nous sommes les descendants de différentes personnes qui se sont converties dans différentes régions et à différentes époques. Donc je dirais que juif, c'est plusieurs peuples ayant une communauté de destin liée à la religion, plusieurs peuples. Il y a le, le peuple séfarade descendant des juifs chassés d'Espagne, le peuple yiddish qui a été une grosse minorité, près de 10% de la population entre mer Baltique et mer Noire, donc à l'est de l'Europe et dans l'Empire russe, le peuple judéo-berbère, des berbères convertis au judaïsme qui sont l'essentiel des juifs maghrébins, le peuple judéo-yéménite qui sont des arabes convertis au judaïsme il y a plus de 2000 ans. Et voilà, je ne parlerai pas d'un peuple unique. Et alors, qu'est-ce que l'idéologie sioniste ?
Alors, attends, avant de passer au sionisme, mais qu'est-ce qui les réunit ? Puisque, donc, tu dis, ils ont des communautés de destin très différentes les uns les autres. Qu'est-ce qui les réunit ? La religion ?
Ce qui les a réunis, c'est incontestablement la religion, avec d'abord le fait que, selon les endroits, ce n'était pas tout à fait la même religion. Par exemple, quand les juifs indiens ou les juifs éthiopiens se sont retrouvés en Israël, ils se sont fait persécuter, accusés d'avoir une mauvaise version de la religion. Et puis en ce qui concerne par exemple les juifs ashkénazes, les juifs d'Europe de l'Est, la perte de religion est massive, pratiquement la moitié de la population, à partir de la fin du 19e siècle. On peut dire que la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas croyants. Donc on comprend que dans ce cas-là, juif avait une autre signification que religieux. Mais par exemple, en ce qui concerne le peuple yiddish, il y avait une langue commune, il y avait une cuisine commune, une région commune, une culture commune. Voilà. Mais dire qu'on a la même culture que les juifs arabes, qu'on a obligé à enlever leur arabité quand ils sont arrivés en Israël, c'est une manipulation historique.
Alors, autre manipulation historique, ça bouscule complètement la théorie du retour et de l'exil pour les juifs en terre de Palestine.
Tout à fait, ça c'est à la base de l'idéologie sioniste, mais c'est une pensée relative sioniste, mais c'est une pensée relativement récente. En gros, les sionistes disent il y a 2000 ans, au moment de la prise de Jérusalem par les troupes romaines et de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, des centaines de milliers, ils disent même des millions de juifs ont quitté ce territoire-là, se sont dispersés partout, et au bout de 2000 ans, ils font leur retour. Historiquement, cette idée ne tient pas. Il n'y a pas la moindre trace d'un départ massif de population. Il y avait, la religion juive était déjà répandue dans tout l'Empire romain et au-delà. On trouvait des juifs massifs, on trouve des tombes juives à Rome 150 ans avant, environ en 100 avant Jésus-Christ. Il y avait déjà des juifs à Carthage, en Espagne. Donc la religion juive a probablement touché 10% de la population romaine au moment de l'apogée de l'Empire. Bien sûr, après, la plupart de ces juifs se sont convertis principalement au christianisme, mais on peut dire que la plupart des juifs sont aujourd'hui des descendants de convertis, qu'il n'y a pas eu exil, et que donc qui sont les descendants de ces juifs de l'Antiquité ? Ceux qui sont restés sur place, qui ont été tour à tour ou en même temps juifs, chrétiens et musulmans, et qui sont les Palestiniens.
C'est ça. Je crois que ta famille vient de Russie, c'est ça ?
Ma famille vient d'un pays qui n'existe plus,
qui s'appelle
la Bessarabie, et qui a été successivement dans l'Empire ottoman, puis dans l'Empire russe, puis roumaine entre les deux guerres, puis soviétique en 1945, et maintenant elle est partagée entre la Moldavie et l'Ukraine.
Alors le sionisme, parce que il y a ces multiples peuples que relie la religion, mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui là la question du sionisme prend un jour aussi important? C'est quoi le sionisme?
Alors le sionisme, c'est, j'ai envie de dire, d'abord il naît uniquement en Europe. Il ne concernera pas jusqu'à 1948, la création de l'État d'Israël, il ne concernera pas les Juifs séfarades ou les Juifs misrahis, les Juifs orientaux, qui seront après emmenés en Israël. Mais la création du sionisme est une création de l'histoire européenne. Il est, j'ai envie de dire, la pire réponse à l'antisémitisme. L'antisémitisme racial a succédé à l'antijudaïsme chrétien en Europe à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est l'époque de l'écroulement des grands empires qui commencent, l'Empire russe, l'Empire autrichien, l'Empire ottoman, qui tous vont définitivement s'écrouler au moment de la guerre de 1914-1918. Mais dans tous ces empires, les minorités nationales réclament tous des États, sur l'idée un peuple égal à un État. Et donc le sionisme va donner une réponse nationaliste à l'antisémitisme. Alors pourquoi y a-t-il cet antisémitisme? Parce que j'ai dit, c'est l'époque de l'explosion des nationalismes, c'est l'époque des théories eugénistes, c'est l'époque où il y a les premiers théoriciens de l'antisémitisme qui apparaissent, le français Gobineau, l'allemand Wilhelmar qui va inventer le terme antisémitisme, qui est un terme impropre parce qu'évidemment il n'y a pas de race sémitique, l'anglais Chamberlain.
Oui, en fait, c'est une des formes du racisme.
Absolument. Et c'est en même temps une époque où le colonialisme devient hégémonique partout dans le monde. C'est l'époque où l'Europe va conquérir essentiellement l'Afrique, mais va établir bien au-delà et partout, jusqu'en Indochine et ailleurs, des colonies. Or, le sionisme s'inscrit totalement dans ces idées européennes. Il s'inscrit dans l'idée nationaliste, mais avec quelque chose d'un peu fou, parce qu'il a inventé la langue, la terre et le peuple, ça fait beaucoup. La langue, parce qu'il y avait des langues juives, il y avait le ladino, qui est de l'espagnol du Moyen-Âge, il y avait le judéo-arabe, il y avait le yiddish, qui est de l'allemand du Moyen-Âge, avec des mots slaves et des mots hébraïques. Mais l'hébreu était réservé uniquement à un usage religieux. Il est très difficile, mais ça va apparaître même pas sous Herzl. Herzl ne pensait pas tellement aux juifs du monde arabe.
Mais Herzl, c'est le théoricien du sionisme.
C'est le théoricien du sionisme, c'est un journaliste bourgeois de l'Empire austro-hongrois. Et en plus, dans son idée du... Oui.
Il n'est pas religieux, en plus. Il est agnostique, je crois.
Alors, lui est agnostique. Celui qui fondera l'État d'Israël...
Ben-Gourion est athée.
Plus tard, Ben-Gourion est athée. Donc, cette idée que le sionisme serait une théorie religieuse est fausse. Les religieux, une partie des religieux...
C'est important,
ça, oui. ...vont s'emparer de l'idée du sionisme. Ils ont été, au début, extrêmement minoritaires. C'était les disciples du rabbin Kook, le rabbin de la Palestine mandataire. Et ils ne deviendront majoritaires chez les religieux qu'au moment de la guerre de 1967 et de l'annexion de Jérusalem. Mais Herzl ne s'adressait pas au départ aux juifs d'Afrique du Nord ou aux juifs encore plus d'Orient, d'Irak, d'Égypte ou d'ailleurs. Il s'adressait uniquement aux juifs européens. C'était un bourgeois de l'Empire austro-hongrois. Il avait d'ailleurs un mépris assez certain pour les Ostjudens, ces juifs de l'Est, polonais, ukrainiens. Et quelque part, l'idée de créer un État juif, c'était aussi pour régénérer un petit peu le judaïsme. Donc le sionisme va donner une réponse nationaliste. Il va aussi donner une réponse coloniale, c'est-à-dire que dès le début, et ça c'est du vivant d'Herzl, il dit « c'est pas la peine de combattre l'antisémitisme, il faut créer un État ». Alors, c'est pas la peine dans l'idée que l'antisémitisme est inéluctable, Herzl s'appuie sur deux exemples extrêmement discutables. Il s'appuie sur l'affaire Dreyfus, puisqu'il a été journaliste au moment du procès Dreyfus. Mais justement, si on examine l'histoire de l'affaire Dreyfus, d'abord, ça n'a pas été la question des Juifs, ça a été la question de toute la société française. Et finalement, la moitié progressiste de la société française, même si ça a été long et douloureux, elle a défendu Dreyfus et elle a fini par gagner. Donc l'idée qu'il est impossible de vivre ensemble et que l'antisémitisme est inéluctable en ce qui concerne Dreyfus est fausse. Et l'autre point sur lequel s'appuie Herzl, ce sont les pogroms de Russie et en particulier le pogrom de Kishinev qui a lieu en 1903. Alors, il se trouve que ma grand-mère paternelle est une survivante du pogrom de Kishinev. Or, justement, le Bund, qui était un parti révolutionnaire juif antisioniste, qui prenait, dans le cadre de la révolution, l'autonomie culturelle pour les juifs sur place, va créer, après le pogrom de Kishinev, des milices d'autodéfense. Et ces pogroms, qui étaient organisés par l'Empire tsariste, n'auront pratiquement plus lieu après. Donc, même du vivant d'Herzl, cette idée que l'antisémitisme n'était pas, qu'on ne pouvait pas le combattre, est une idée fausse. Ce qui est plus tragique, c'est que Herzl va s'adresser à tous les antisémites européens, tous les dirigeants de l'Europe de l'époque, dont le sinistre Plévé, qui était justement le ministre de l'Intérieur du Tsar, celui qui avait organisé les grands pogroms, mais il ira voir la cour britannique, il ira voir l'empereur d'Allemagne, et en gros pour leur dire « votre intérêt et le mien sont le même qu'un maximum de juifs quittent l'Europe ». Et ce colonialisme sioniste, dès le début, va être un colonialisme particulier, assez différent du colonialisme français, par exemple en Afrique du Nord, Il ne vise pas à exploiter le peuple colonisé, il vise à lui piquer ses terres et à l'expulser et à le remplacer. C'est un colonialisme de peuplement, mais dès le début. Et l'idée d'Herzl, dès le départ, c'est juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est-à-dire que le sionisme, au début, c'est une théorie de la séparation.
C'est une question importante, parce que quand on regarde l'actualité, ou même les années récentes, on voit bien que cette question de « on ne peut pas vivre, on ne supporte pas de vivre avec d'autres », elle est centrale dans le sionisme.
Et elle est centrale en France. Je veux dire en France, la politique ignoble qui est menée vis-à-vis des migrants, le fait que M. Macron... donne six vedettes aux gardiens de camps de concentration libyens pour qu'ils retiennent les migrants en Libye, c'est la même idée. C'est l'idée de l'impossibilité du vivre ensemble. Et les institutions sionistes, on a souvent dans l'idée, Israël est une réponse au génocide nazi. Il faut comprendre que les institutions sionistes qui ont expulsé les Palestiniens de leur propre pays, elles ont été créées bien avant. La banque coloniale juive, elle est créée du vivant d'Herzl en 1898. C'est elle qui prend les fonds pour financer la colonisation. Le KKL, Keren Kayemet l'Israël, le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, celui qui a pour but, dans ses statuts, de judaïser la terre, il est créé en 1901. Et après la mort d'Herzl, les institutions vont aller beaucoup plus loin. Et je dis ça puisque j'ai affaire à des gens de gauche, c'est curieusement un machin qui s'appelle un syndicat, mais j'ai du mal à l'appeler un syndicat, qui va créer toutes les institutions du futur État d'Israël dès 1920. La Histadrout, qui est créée en 1920, c'est un syndicat dont l'article numéro 1 de ses statuts, c'est la défense du travail juif. Vous imaginez si la CGT avait comme article numéro 1 de ses statuts la défense du travail français, on trouverait ça bizarre. Et c'est la Histadrout qui va créer la banque Apoaline, qui va créer la compagnie Zim de navigation, qui va créer la compagnie Eged de bus, qui va créer les caisses de sécurité sociale, qui va créer la Haganah, l'armée, l'ancêtre de Tzahal, et qui était à l'époque une milice. Et c'est la Histadrout qui, dès 1921, va faire une grande grève sur le thème boycotter les magasins arabes, acheter juifs. C'est-à-dire que cette idée fondamentale du sionisme, c'est l'impossibilité de la cohabitation et c'est l'idée de la société séparée. Et on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas ça. Ça, ouais, c'était il y a 100 ans.
Tout à fait. Ouais. En fait, tu nous expliques que sionisme et antisémitisme ont des intérêts convergents.
Justement, moi je pense le démontrer assez amplement dans mon livre. Le vrai couple, c'est sionisme-antisémitisme, et c'est évidemment pas antisionisme-antisémitisme. Je vais plus loin.
Alors on va y venir après.
Juste un point. Ce qui va rendre possible, plus tard, la création de l'État d'Israël, et en tout cas le mandat britannique, c'est la déclaration Balfour en 1917. Or, Balfour était un antisémite. Balfour était ce qu'on appelle un chrétien sioniste, c'est-à-dire ce courant du protestantisme qui, depuis le XVIIe siècle, a théorisé l'idée que pour favoriser le retour du Christ, il faudrait que les Juifs retournent en Terre Sainte, qu'ils chassent le mal, c'est-à-dire les Arabes, Armageddon, et qu'ils se convertissent à la vraie foi. Donc ces antisémites-là...
Ça les arrangeait un petit peu aussi, parce que ça permettait de ne pas accueillir...
Les Juifs dehors, et vous faites des colons, avec des intérêts économiques convergents en Palestine.
Balfour en est un exemple vivant, parce qu'en 1905, il est Premier ministre... Il va prononcer un discours à la Chambre des communes contre ces juifs révolutionnaires polonais qui viennent semer la révolution à Londres. Il va édicter une loi contre l'immigration de ces juifs arrivant d'Europe centrale. Et quelques années après, c'est lui qui envoie à la direction sioniste, et en l'occurrence à Lord Rothschild, ce qui n'était pas un choix tout à fait neutre de s'adresser à la bourgeoisie, il va leur envoyer un texte disant « on va conquérir la Palestine ». Et on vous la donne. Est-ce qu'il y a une contradiction ? Non. Pour ces antisémites, je reprends les mots d'Anna Arendt, les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, mais s'ils partaient là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. Le sionisme, c'est ce passage-là, c'est cette transformation-là qu'ils ont prônée dès le début et qu'ils ont réalisée.
Alors Pierre, on va faire une petite pause hein, dans notre oui. débat absolument passionnant, parce que passionnant à plus d'un titre, hein, parce que je crois que malheureusement nos médias, parmi lesquels règne la pensée unique, ne donnent pas beaucoup d'éléments de réflexion afin que afin que les citoyens puissent se faire leur idée. Hein, et les éléments que tu nous donnes là, on ne les entend jamais, quoi. Hein. Alors, tu nous as proposé comme première pousse François Béranger. Tu peux nous dire un peu pourquoi ce choix ?
Ben bon, d'une part, je suis un peu un enfant de 68, donc Béranger, c'est...
Oui, parce qu'on l'entend.
C'est quand même ma musique, en plus je joue de la guitare. Et là, la chanson, c'est Mamadou Madi, qui est une chanson antiraciste d'une actualité tellement brûlante. C'est-à-dire, voilà, donc les auditeurs entendront les paroles et ils comprendront que la stigmatisation et les stéréotypes racistes d'il y a 50 ans, c'est exactement toujours les mêmes. Je crois vraiment que c'est utile de les entendre.
Alors, on va écouter avec grand plaisir François Béranger, Mamadou Madi.
Écoutons.
Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a placé le citron pour jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute Volta, Togo, Mali, Haute d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le citron pour jeter la peau. Sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole. Les nouveaux, c'est bizarre, sont pires que les anciens. C'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Alors revenons à notre discussion après cette très belle chanson.
Pierre, c'était drôlement d'actualité.
Absolument.
Voilà, parce qu'on peut absolument reprendre les paroles.
C'est bon choix, vraiment.
Vraiment là. Bon. Et puis c'est vraiment très plaisant de réécouter Béranger. Hein.
Ah oui.
Alors sur le sionisme, revenons au sionisme, tu nous as expliqué que le sionisme est une théorie de la séparation qui n'a jamais pensé la cohabitation avec les Palestiniens ou autres personnes que les Juifs.
Ils ont nié l'existence des Palestiniens depuis le début. J'emploie volontairement ce terme parce que chez nous, les Juifs, surtout ceux qui sont des rescapés de la Deuxième Guerre mondiale ou les descendants de ces rescapés, le mot négationnisme est un mot qui est quasiment une insulte. Mais je peux dire, le sionisme a été dès le départ totalement négationniste vis-à-vis de l'existence des droits et de la dignité des Palestiniens, et surtout de l'existence.
Et c'est comme ça quand le nettoyage ethnique est apparu. C'est chasser, déplacer les populations. Alors, le nettoyage ethnique, peut-on parler de nettoyage ethnique ?
Totalement. Et il faut regarder d'ailleurs le point de vue palestinien sur cette guerre. Il y a un film superbe que je conseille à tous les auditeurs, qui est La Terre par l'Arabe de Maryse Gargour, qui donne le point de vue palestinien. Mais document à l'appui, elle montre comment, dès les années 30, dans toutes les élites sionistes du Yishuv, donc des établissements juifs qui se trouvent en Palestine mandataire, il y a un quasi-consensus sur ce nettoyage ethnique. Alors, je veux là-dessus faire une distinction que les gens doivent comprendre. Je distingue les gens de l'idéologie. Beaucoup de Juifs sont arrivés en Palestine à différentes époques parce qu'ils ne savaient pas où aller, parce que les frontières se fermaient. Shlomo Sand dit d'ailleurs de façon totalement juste que si les États-Unis n'avaient pas fermé leurs frontières entre les deux guerres, jamais l'État d'Israël n'aurait existé parce que l'écrasante majorité de ceux qui fuyaient les persécutions seraient partis en Amérique, aux États-Unis ou en Argentine.
Parce que les Anglais n'en voulaient pas, les Américains n'en voulaient pas, et aujourd'hui, on va nous donner des leçons. C'est extraordinaire.
Je pense justement qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé pour les Juifs en 1938, il y a une conférence internationale à Évian sur qu'est-ce qu'on fait des Juifs allemands et des Juifs autrichiens qui fuient. Et le consensus total de toutes les nations, c'est on ne fait rien, on ne les prend pas. Et je trouve qu'il y a une coïncidence totale entre la lâcheté de l'Occident vis-à-vis de cette histoire-là de 1938 et leur attitude sur les migrants et sur ceux qui fuient la misère et les guerres en Afrique aujourd'hui. C'est exactement la même politique, on n'en a rien à faire, on les enferme ou on les refoule et on n'en veut pas. Donc je distingue sur la question du nettoyage ethnique les gens qui partaient en Palestine, qui ne savaient pas où aller, et y compris, il y en aura encore évidemment beaucoup en 1945, des rescapés des camps d'extermination et du Yiddishland, je distingue de l'idéologie sioniste. L'idéologie sioniste avait prémédité le nettoyage ethnique depuis de très nombreuses années. Les gens, il y en a beaucoup qui arrivaient là, ils ne savaient pas où aller, et pour donner un petit peu une idée, en 1944, on est en pleine guerre et c'est presque le paroxysme de l'extermination en Europe. Il y a un vote dans le Yishuv, donc dans la Palestine mandataire, chez les Juifs, et les partisans d'un État binational obtiennent 45% des voix. C'est-à-dire 4 ans avant la Nakba, la catastrophe, l'expulsion, près d'un futur Israélien sur deux n'est pas pour foutre dehors les Palestiniens. Par contre, l'idéologie sioniste avait prémédité cette expulsion depuis de très nombreuses années. Elle avait établi une carte extrêmement précise de tous les villages arabes. Elle avait énormément profité du fait qu'elle avait participé aux côtés de l'armée anglaise à la répression contre la grande révolte palestinienne de 1936.
Les Palestiniens chassés de leurs terres.
Les dirigeants palestiniens étaient exilés. Et donc, elle a délibérément vidé village par village. Et surtout, dès la victoire de 1948, alors que la résolution 194 de l'ONU imposait le retour des réfugiés, qu'est-ce qu'a fait le nouvel État d'Israël ? Il a interdit ce retour et il a commencé la destruction systématique des villages.
Près de 600, donc, près de 600 villages, je crois.
Oui, c'est même probablement 700. Et c'est surtout ce que parfois on ignore. Les destructions de villages sont continuées pendant 20 ans. Si on lit, par exemple, l'extraordinaire livre qui s'appelle Nakba aussi, d'Eleonore Bronstein et son mari Ethan.
Que nous avons reçu ici.
Voilà, il montre comment l'endroit où se trouvait le kibbutz d'Ethan il y avait un village palestinien qui va être détruit pratiquement au moment de la guerre de 67. Nous, il y a eu, nous, on en a été témoins, et leur livre en parle. Nous, quand on était à Gaza, on rencontre des gens qui ont pu rester un court moment après la guerre de 48 en Israël, à Ashkelon, et qui seront expulsés et dispersés, certains allant à Gaza, d'autres en Cisjordanie, d'autres dans l'Israël, le nouvel État d'Israël, en 1951-52. Donc les expulsions vont continuer longtemps, les destructions de villages vont continuer longtemps. Ce nettoyage ethnique aujourd'hui, il n'y a plus aucun historien qui le conteste. Pendant longtemps, en Israël, on a dit « les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Il a fallu attendre 1988, le 40e anniversaire, l'ouverture des archives, pour que les historiens israéliens, sionistes comme Benny Morris ou antisionistes comme Ilan Pappé, les uns et les autres ont tous confirmé ce qu'avait été la version palestinienne, c'est-à-dire que le nettoyage ethnique a été systématique, a été accompagné de très nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On pense souvent à Deir Yassine, mais il y en a eu plein d'autres, et surtout d'une espèce de cruauté. Dans le livre d'Eitan et d'Eléonore, ils obtiennent le témoignage d'anciens du Palmar. Et alors là aussi, c'est important, parce que pendant longtemps, on a dit, bon, mais oui, il y a eu quelques bavures en 48, comme Deir Yassine, mais c'était l'extrême droite, mais par contre, Tsahal, l'armée la plus morale du monde, et, mais pas du tout. On voit que des anciens du Palmar, donc, qui étaient liés au Parti travailliste, hein, qui sont ces milices, témoignent sur les crimes de guerre qu'ils ont commis, témoignent sur les exécutions de civils quand les villages ne partaient pas. Et donc, maintenant, il n'y a plus aucun doute sur cette idée-là. L'idée qu'il y a bien eu nettoyage ethnique prémédité en 1948, et donc, à côté de ça, les sionistes nous disent « vous niez la légitimité de l'État d'Israël, vous êtes antisémite ». Et l'État d'Israël n'aurait pas existé sans ce nettoyage ethnique. Ce nettoyage ethnique ne sera jamais légitime. J'ai même envie de dire il ne pouvait pas y avoir de paix en Afrique du Sud si on ne reconnaissait pas que l'apartheid est un crime. Il ne pourra pas y avoir de paix si on ne reconnaît pas la réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu un nettoyage ethnique massif en 1948, et qu'il ne peut pas y avoir de paix si d'abord on ne le reconnaît pas, si ensuite on n'essaie pas de le réparer.
Alors Pierre, on le retourne, hein, donc ouais. On va peut-être en venir à l'actualité plus chaude là, hein, ce débat un peu nauséabond, qui essaye d'assimiler antisionisme à antisémitisme, et surtout de criminaliser toute action, toute remarque, toute manifestation contre l'attitude d'Israël aujourd'hui. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là,
Je trouve que ça, c'est obscène. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on a la direction israélienne, ce sont des gens qui, y compris Miri Regev, la ministre de la Culture, elle lance un truc « je suis fasciste ».
Oui, alors faut que nos auditeurs sachent, parce qu'on n'en parle jamais, jamais, jamais dans les médias, qu'on a affaire à un gouvernement d'extrême droite.
Hein. Alors, mais pire que ça, je veux dire que Netanyahou fait des déclarations en disant, il a fait ça au Congrès juif mondial, au Congrès sioniste mondial.
Il a des amitiés racistes et fascistes avec M. Orban.
Il a déclaré, Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui a suffisé.
Oui, ouais, ça c'est.
Il est l'ami de Viktor Orban en Hongrie. Viktor Orban est en train de réhabiliter le régime de l'amiral Horthy, qui est le responsable de l'extermination des Juifs hongrois. Le même Viktor Orban a déchaîné au moment de sa dernière élection une campagne antisémite contre le milliardaire George Soros, une campagne ouvertement antisémite. Netanyahou a dit « Orban est notre ami et Soros est un ennemi d'Israël ». Netanyahou est l'ami des chrétiens sionistes dont j'ai parlé, qui sont ouvertement antisémites et qui expliquent que si les Juifs ne se convertissent pas à la vraie foi, ils vont disparaître. En France, Khalifa, le dirigeant du Bétard, et le dirigeant du CRIF, est un ancien du Bétard. Le Bétard, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent des identitaires et de Ordre Nouveau. C'est des gens qui ont toujours manié la barre de fer et qui sont... Alors, ce que je tiens à dire quand même aux auditeurs, c'est que ces amitiés à l'extrême droite, ce penchant pour le racisme et le fascisme, n'est pas nouveau. le fondateur du courant révisionniste du sionisme, Vladimir Jabotinsky, qui mourra en 1940, dès les années 1920, c'est un admirateur du fascisme. La radio des révisionnistes sera Civita Vecchia, hébergée par le fascisme italien. Et la théorie du transfert, c'est-à-dire de l'expulsion de tous les Palestiniens, c'est Vladimir Jabotinsky. Ces gens-là ont été racistes dès le début, mais même le courant dit social-démocrate du sionisme, le courant de Ben-Gourion, il y a un excellent article qui vient de sortir dans Orient 21 de la part d'Henri Laurence là-dessus. Ce courant a signé, au moment où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne en 1933, les accords de Havara, les accords de transfert, permettant aux juifs allemands de partir en Palestine avec leurs biens. Et la contrepartie, c'était aucun boycott de l'Allemagne, puisqu'au contraire, le Yishuv, les juifs de la Palestine, devaient acheter des machines et du matériel allemand. Et il y a eu du matériel allemand, des Mercedes et des Opel en Palestine mandataire jusqu'en 1939. Donc cette espèce de complicité avec les pires des antisémites, elle n'est hélas pas nouvelle. Je conseille aux auditeurs un livre qui a maintenant 60 ans, qui est 50 ans, qui est écrit par Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Elle est correspondante au moment du procès Eichmann et elle dénonce toutes les turpitudes des dirigeants sionistes avec les nazis sur 30 ans. Et il y en a vraiment énormément, énormément. Donc cette complicité n'est hélas pas nouvelle. Ce qui est aujourd'hui, donc on se retrouve avec quoi ? Tout ce que la France peut compter de droite et d'extrême droite et pro-israélienne, de Marine Le Pen à Claude Goasguen à tout ce qu'on veut. En Europe, tous les dirigeants des partis d'extrême droite sont tous allés en Israël voir leur petit copain Lieberman, donc Geert Wilders, le néerlandais, Strache, le néo-nazi autrichien. Tous ces gens-là ont fait le voyage à Jérusalem. En France, Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, est allé visiter des colonies. Tous ces gens-là, pire que ça, en Europe de l'Est, les partis qui sont les descendants de ceux qui ont guidé les Einsatzgruppen au moment de l'extermination des Juifs d'Europe orientale, ils sont tous aujourd'hui pro-israéliens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent stigmatiser essentiellement les pauvres, les Arabes et tout, donc ils sont du côté israélien, et parce que Israël est devenu de fait une espèce de laboratoire de la surveillance des populations jugées dangereuses et des technologies de pointe. Donc sur cette assimilation, c'est le monde à l'envers.
Mais il y a aussi le capitalisme qui est en jeu.
Oui, puis pourquoi ce débat alors là, aujourd'hui, à ce moment-là
Ce débat, il est parce que la politique étrangère de Macron est devenue... Il y a une dérive qui avait commencé dès Sarkozy. Mais de Sarkozy à Hollande et à Macron, ça s'est amplifié. Une politique ultra-atlantiste, une politique de répression, une politique néocoloniale qu'on voit en Afrique avec toutes les interventions françaises, une politique raciste contre les migrants, et puis une politique qui s'inscrit complètement dans ce que George Bush avait appelé la guerre du bien contre le mal. Et dans cette guerre-là, le bien, c'est Israël, parce que c'est un morceau d'Occident fiché là-bas.
En France, ça permet également de stigmatiser des populations, notamment la population du quartier, en disant le racisme des racismes, c'est l'antisémitisme. Et du coup, forcément, comment c'est perçu par ces populations ?
Alors nous, à l'UJFP, on est très clair, on refuse de séparer l'antisémitisme des autres formes de racisme. Nous sommes contre le racisme sous toutes ses formes, que ce soit un racisme antisémite, islamophobe, anti-rome, anti-noir. Nous constatons, nous pensons en plus, en tant que juifs et en tant qu'ayant la mémoire de ce que les juifs ont subi, que le comportement du gouvernement français de dire contre les juifs on n'a pas le droit, mais contre les arabes, contre les noirs, contre les roms on peut. Et le président de la République a donné l'exemple d'une façon écœurante. Son discours où il dit le boxeur gitan, c'est pas lui qui a écrit ça, c'est son avocat, c'est pas le discours d'un boxeur gitan. Quand on a un président de la République qui reprend les stéréotypes et la stigmatisation contre les gens qu'on appelle les Roms, les gitans ou les gens du voyage qui subissent le racisme le pire depuis maintenant plusieurs siècles et qui va nous expliquer ce que c'est que l'antisémitisme, c'est le monde à l'envers. Lutter aujourd'hui contre le racisme, ça veut être tous les gens qui sont victimes du racisme et tous ceux qui estiment que le racisme est une saloperie, on doit être tous ensemble. La façon de sortir l'antisémitisme de ça, elle est immorale et elle est contre-productive.
Pierre, est-ce qu'il n'y a pas, du fait, depuis l'arrivée de Trump, avec la désignation de l'Iran comme le nouveau grand Satan, parce qu'il faut bien créer des peurs chez les peuples pour pouvoir ensuite les manipuler, hein, est-ce qu'il n'y a pas, et avec le fait que les autres pays occidentaux ont emboîté le pas ou emboîtent le pas de Trump, est-ce qu'il n'y a pas là une des raisons un peu de protéger et je dirais de surprotéger Israël dans le débat.
Je dirais que pour que l'Occident cède le Proche-Orient avec tout ce que cette région représente de richesse, elle a besoin d'Israël, elle a besoin des dynasties féodales et patriarcales et esclavagistes du Golfe. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le roi d'Arabie Saoudite qui a du sang sur les mains.
Oui. L'allié d'Israël, l'ami d'Israël.
Quand il ne découpe pas les gens en morceaux, il s'en prend aux femmes, il s'en prend aux Yéménites, il s'en prend à tout le monde. Cet homme-là, qui a du sang sur les mains, est devenu l'allié inconditionnel de l'Occident. Et non seulement il est l'allié d'Israël, mais il est armé par la France pour massacrer le peuple yéménite. Tout ça, ça fait un tout. Et je veux dire qu'aujourd'hui, on doit bien comprendre que ce n'est pas seulement être solidaire des Palestiniens contre ce qu'ils subissent, c'est aussi en finir avec une politique qui est affreuse. Je veux dire que la France, elle a bien du sang sur les mains dans son histoire, mais depuis la guerre d'Algérie, on est vraiment dans la pire période que la politique étrangère française n'ait jamais subie. Armer l'Arabie Saoudite pour massacrer le peuple yéménite, devenir le troisième marchand d'armes, et puis recevoir Bibi à l'anniversaire du Veldiv. Pourquoi l'anniversaire du Veldiv, qui est notre histoire intime, elle a à voir avec un fasciste qui est Bibi Netanyahou, et le recevoir et dire que l'antisionisme, ça ne va pas. Ça, je veux dire que là-dessus, Macron, comme sur bien d'autres sujets, mais pour nous, c'est excessivement grave.
C'est ce qui fait dire à l'UFP que c'est un suicide collectif pour les Juifs. C'est la négation de votre histoire, de votre identité.
C'est la négation de notre histoire. Et puis, qui est-ce qui peut penser que cette aventure coloniale, que cet écrasement du peuple palestinien, il va durer éternellement? On comprend bien que les croisés, ils ont pensé, parce qu'ils s'étaient installés là-bas, qu'ils allaient rester éternellement, ils sont partis au bout d'un siècle. Nous disons toujours, et ça je le dis dans mon dernier livre, la Nakba ne sera jamais légitime, il y a tout un chapitre là-dessus. Je pose la question, est-ce que faut-il jeter les Juifs à la mer? Je la pose comme elle nous est posée quand on dit qu'on est antisioniste. Ma réponse très claire est non. Mais justement, ce qui a permis aux blancs sud-africains de rester. Est-ce que c'est le maintien de l'apartheid ou est-ce que c'est la fin de l'apartheid? C'est la fin de l'apartheid. Qu'est-ce qui a fait que la plupart des Français d'Algérie ont dû partir? C'est l'OAS. C'est le fait que la seule expression politique qu'ils ont exprimée, malheureusement, ça a été l'OAS. Or aujourd'hui, en Israël, on a un gouvernement OAS. C'est exactement ça. On a un gouvernement qui dit on va jusqu'au bout, on les écrase et il n'y aura jamais l'égalité des droits. Et je dis, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui permettra aux Juifs israéliens de rester? Il n'y a aucune autre solution que le vivre ensemble dans l'égalité des droits. Et toute idée qu'ils vont s'imposer par la force, par le colonialisme, par le racisme et par l'apartheid, pour eux-mêmes, elle est suicidaire. Mais ils le
Tout
savent.
À fait.
La moitié des Israéliens ont un deuxième passeport. Ils le savent que cette aventure est extrêmement dangereuse et peut-être pour eux, elle est criminelle. Évidemment pour les Palestiniens qui meurent tous les jours, pour les enfants de 12 ans qu'on met en tôle, pour ceux qu'on torture et tout. Mais pour les Juifs israéliens même, c'est absurde. Et puis je dis, c'est une négation de notre histoire. Notre histoire juive, elle est diverse, mais qu'on soit laïque ou qu'on soit religieux, elle n'a jamais été militariste, raciste et discriminante vis-à-vis des autres. C'est un retournement complet de notre histoire. C'est une injure à nos valeurs.
Alors Pierre, on va faire une deuxième pause musicale avant d'arriver à la fin de notre émission. Alors tu as choisi comme deuxième pause Dominique Grange. Tu peux nous en dire un mot là encore?
Alors Dominique Grange, c'est encore 68, puisque c'est la première fois que je l'entends. C'est aussi en 1968, et puis c'est une copine, on se voit maintenant dans toutes les manifestations et puis elle est très active pour le BDS, pour le boycott des investissements sanctions. Et cette chanson-là, bon, elle est un peu longue, c'est dommage, mais elle est splendide.
On va peut-être être obligé de la couper un peu, hein, mais on conseille à nos auditeurs de l'écouter, d'aller la chercher sur YouTube,
voilà,
et puis de l'écouter en entier.
Le mur. Et c'est vraiment une chanson d'hommage à la Palestine bien méritée.
Magnifique chanson.
Alors on écoute Dominique Grange Contre le mur et...
Et on se retrouve.
On se retrouve ensuite.
Derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés, la mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure.
On a donc écouté, alors une partie, malheureusement, parce qu'elle est un peu longue, mais de cette chanson absolument magnifique. Et bon, on va s'acheminer maintenant vers la fin de notre émission, mais peut-être Christine, une question à notre invité Pierre Stamboul. Hein, je veux peut-être rappeler qu'on est dans l'émission Résistance, chronique palestinienne sur Radio Armada, et que notre invité d'aujourd'hui est Pierre Stamboul, dirigeant de l'Union juive française pour la paix, et que le thème de notre émission est est-il encore possible
de critiquer Israël sans être traité d'antisémite.
Non seulement c'est possible, mais c'est totalement indispensable. Je crois que aujourd'hui, Israël va au bout de sa trajectoire. De plus en plus, les gens comprennent que toute espèce d'idée d'une paix fondée sur l'égalité et la justice, elle n'obtiendra jamais ni l'assentiment de la direction israélienne, ni l'assentiment des pays qui soutiennent ce pays. Donc, d'où l'idée du BDS. Alors, je vais un peu expliquer. Le BDS, boycott des investissements sanctions, c'est une idée palestinienne. C'est un appel lancé en 2005 par 172 associations de la société civile palestinienne Ils ne demandent pas un État, deux États ou 50 États. Ils demandent trois choses. La liberté, l'égalité, la justice.
Ouais. La on liberté, a fait une émission la... sur le BDS aussi. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et donc, j'ai envie de dire, on n'a rien d'autre à se mettre sous la main. L'idée de faire du lobbying auprès de nos dirigeants en disant on va les convaincre, ils sont très très bien informés. Nous, parce qu'on a été à Gaza et en Cisjordanie, on a rencontré des diplomates français. On sait très bien que tous les jours, ils envoient des rapports sur les enfants de 12 ans arrêtés, sur les maisons détruites, sur les emprisonnements, sur les cas de torture. Donc la complicité de la direction française ou européenne ou américaine, c'est pas qu'ils sont mal informés, c'est qu'ils sont complices. Donc nous devons, et nous n'avons aucun autre outil pour l'instant, nous devons par le BDS casser l'image de cet État voyou et nous devons répondre à l'appel palestinien. Ils nous disent « cette guerre est née de l'extérieur, elle est née du vote de l'ONU qui a, en 1947, qui a coupé en deux la Palestine, elle est née du vote de l'ONU qui en 1949 a admis Israël en son sein alors que ce pays venait d'expulser 800 000 Palestiniens et détruire leur village. » Donc une partie de la solution viendra de la résistance des Palestiniens, mais l'autre partie viendra
la pression des peuples.
De notre capacité à nous, population d'Occident, de faire pression sur nos élus, sur nos gouvernements, pour qu'ils changent cette complicité criminelle. C'est pas impossible. J'étais, il y a, avec d'autres, fin novembre, invité par le conseil départemental de Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, depuis 20 ans, ils envoient tous les élus en Palestine. Ils sont aidés par les dirigeants israéliens qui les gazent ou qui les humilient sur les checkpoints. Et toutes tendances confondues, le conseil départemental de Loire-Atlantique soutient la Palestine, a des projets de coopération et organise des colloques avec des solidaires pour en parler. Donc ce n'est pas impossible et c'est le BDS.
Mais tu ne penses pas que justement le débat actuel sur la criminalisation de parce que c'est ce qu'a dit Macron toute action de boycott d'après Macron est une action qui manifeste l'antisémitisme.
Il n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi contre le boycott. La circulaire Alliot-Marie est une circulaire, ce n'est pas une loi. Elle sera, à mon avis, contredite par la Commission européenne des droits de l'homme qui doit statuer là-dessus. Et de toute façon, quand bien même il y aurait une loi, je veux dire, il y avait une loi qui interdisait parler de la torture en Algérie, et ça n'a pas empêché des gens d'être solidaires et de refuser ça. La lutte continuera. Pour l'instant, on a gagné la quasi-totalité des procès sur le BDS. Pour l'instant, une des actions... C'est l'action contre Eurovision qui doit avoir lieu à Tel Aviv en mai. Et il est scandaleux d'essayer de blanchir la politique criminelle d'un État par ce genre de manifestation. Il faut que nous délégitimions l'État d'Israël comme on a délégitimé le régime sud-africain de l'apartheid. Et je le dis en tant que juif et je le dis en répétant ce que nous disent les Israéliens qui appartiennent au mouvement boycott de l'intérieur. Ils disent « arrêtez-nous parce que notre société, elle est incapable de s'arrêter tout seul ». Donc on a à jouer absolument ce rôle-là. Et alors sur l'accusation d'antisémitisme, je dirais qu'en France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, la majorité presque des porte-parole du BDS sont juifs. Donc on comprend bien que c'est une action dérisoire de l'extrême droite israélienne et de son supplétif Macron pour essayer de nous criminaliser.
Eh bien écoute, on te remercie Pierre, parce que c'était
absolument
passionnant, parce que c'est une question qui est extrêmement importante, et pour la solidarité du peuple palestinien, et en même temps pour les démocrates français, parce que aujourd'hui, c'est toute la question de pouvoir exprimer ses idées de protestation.
C'est une question de démocratie aussi.
Contre un pays qui criminel, floupit les droits criminel, humains, qui voyou. Colonise un autre peuple. Et si aujourd'hui les militants en France sont accusés d'antisémitisme parce qu'ils dénoncent Israël, je veux dire que notre démocratie ne va pas faire long feu. Hein, voilà.
Et allez voir le site de l'UJFP où il y a beaucoup de textes sur cette question-là.
Beaucoup d'informations. Oui,
très bien. Eh bien écoute, on te remercie. Bonne soirée.
Merci. Merci Pierre, à bientôt.
Alors, au revoir. Peut-être au revoir.
Au revoir.
Alors, Christine, peut-être qu'il y avait une petite annonce à faire.
Oui,
avant
une annonce sur cette question que nous avons largement débattue avec Pierre. Aujourd'hui, elle va être également débattue avec Éléonore Merza-Bronstein, qui vient à Aulnay-sous-Bois, sur la thématique sionisme, antisionisme et antisémitisme, regard croisé sur la Nakba. Donc, nous invitons les auditeurs. Éléonore Bronstein est juive israélienne et elle se bat le 22 mars 22 à 19h à la salle du Mont à Aulnay-sous-Bois et à l'invitation d'Amitié Palestine Solidarité. Et elle se bat également, elle est anticolonialiste et pour la paix.
Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonne soirée. À dans 15 jours, Palestine vivra.
Palestine vaincra.
Écoutez Armada.
Armada. Chronique palestinienne.